Jean-Yves Chapuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en stratégie urbaine et projet urbain, ancien élu de Rennes, donc de 1983 à 2014, comme adjoint à l'urbanisme et vice-président des formes urbaines à Rennes Métropole. Vous avez également énormément enseigné, et notamment été directeur de l'École nationale d'architecture à Rennes. On vous accueille aujourd'hui donc dans nos studios de SILAB, puisque vous allez animer une conférence jeudi soir aux archives de Rennes. Pour parler donc de l'un de vos livres, vous avez publié 6 livres, mais là c'est surtout autour de La ville n'est pas figée, aux éditions de l'Aube. On y comprend comment la ville reflète l'évolution de la société et des modes de vie, surtout dans notre monde un petit peu incertain en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre et en quoi le fait d'analyser la ville permet un peu de cerner les enjeux sociétaux ?
C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus uniquement parler de la ville en termes de programmation. Programmation de logement, programmation d'activités, transport, etc. La question qui se pose, c'est d'ailleurs le titre d'un prochain livre, le projet humain avant le projet urbain. Et c'est vrai que l'évolution des modes de vie pose des questions extrêmement nouvelles. Par exemple, le fait qu'on vive plus longtemps, eh bien, ça entraîne une vraie question sur l'habitat. Puisqu'il y a un moment donné, avant d'arriver peut-être en EHPAD, on peut avoir des logements plus collectifs où il y a certains services collectifs pour les gens qui habitent dans cet immeuble-là, par exemple, et une partie plus personnelle. Autre question, on vit à peu près 700 000 heures, on a la moitié de notre temps à nous. Pourquoi ? Parce que vivant plus longtemps, eh bien, on est en retraite beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est une vraie question. En fait, sur les 700 000 heures, le temps de travail ne représente que 12 à 15%. Alors, on n'a pas cette impression-là quand on travaille, mais ça, ce sont des réalités. Donc, la ville, c'est aussi du loisir. Donc, comment est-ce qu'on gère cela ?
Vous dites aussi que la ville donc, n'est pas figée, la ville se transforme, elle est mobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et quelles sont les limites vraiment de la ville ? Est-ce qu'il y en a des limites ?
Alors, la ville, elle bouge continuellement et je dirais que même la ville ancienne, elle bouge quelquefois beaucoup plus que la ville des quartiers neufs. Pourquoi ? Ben d'abord, la première des choses, ce serait d'ailleurs intéressant de le montrer sur Rennes, mais sur n'importe quelle ville, mais sur Rennes, les commerces, par exemple, en rez-de-chaussée, ben, ça change tout le temps. Moi, une chose qui m'a beaucoup frappé, quand vous êtes en bas de la place de la mairie, que vous allez place de la République, vous aviez autrefois un magasin de M. Collin qui était tailleur. Bon, qui vendait donc des habits pour hommes, plus il était tailleur. Mais ça a complètement disparu. C'est un métier qui n'existe pratiquement plus, quoi. Quand vous voyez dans la restauration, l'évolution de la restauration, c'est impressionnant, par exemple. Donc déjà, les rez-de-chaussée, je dirais, de la ville, le commerce, qui est une fonction fondamentale de la ville, elle est très différente. Elle va même encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, finalement, vous pouvez acheter sur les plateformes, vous pouvez payer par Internet et vous pouvez aller récupérer ce que vous avez acheté dans des lieux, dans des cases finalement, etc. Mm. C'est-à-dire qu'à la limite, le commerce, qui est l'une des fonctions fondamentales de la ville, elle peut disparaître. On n'a plus besoin de la ville. Vous vous rendez compte un peu des questions que cela pose ? Mm. C'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Autre chose, le vieillissement fait que donc il faut avoir des logements plus adaptés. Et puis, vous avez aussi toutes les évolutions des familles. Bon, y a des formes de familles extrêmement différentes, entre la famille monoparentale, la famille recomposée, par exemple. Et on est un peu dans une vie, une société liquide, en fait, où on peut changer énormément. Donc, il faut que la ville s'adapte à ça. Alors, il y a une époque, on pensait que la ville ancienne n'était plus adaptée. Et c'est dans toutes les villes, à Rennes comme ailleurs. Donc on refaisait un centre, un nouveau centre, le Colombier. Et on faisait donc des grandes pénétrantes qui devaient arriver au centre pour arriver en voiture tranquillement. Et puis la rocade, c'était en fait les nouveaux remparts de la ville. Tout cela change aujourd'hui. On dit qu'il y a une histoire d'une ville. Il faut rentrer dans une histoire. Donc on réhabilite les centres historiques. Mais si on les réhabilite les centres historiques, ça change la mobilité puisque les rues, on ne va pas les élargir. Donc, ça pose le problème des nouvelles mobilités, les transports en commun et les modes doux. Et là, il y a un grand débat aujourd'hui, qu'on le voit dans le journal Ouest-France, sur quelle mobilité pour à la fois conserver donc, cette partie historique, ancienne, et à la fois conserver dans la métropole les terres agricoles, parce qu'il y a de très bonnes terres.
Donc, je peux vous poser une autre question. Vous parliez beaucoup de liens, faire le lien entre le citoyen et les élus de la ville. Vous, on le rappelle, vous avez été élu pendant de nombreuses années. Comment concrètement on fait ce lien entre les citoyens et les élus? Comment on concerte les habitants? Et voilà, de manière concrète, comment se met en place ce dialogue pour une ville?
Alors là, il y a des évolutions très importantes. En fait, les institutions que nous avons aujourd'hui, à tous les niveaux d'ailleurs, au niveau national comme au niveau local, ne sont plus du tout adaptées à la relation des citoyens avec les responsables politiques. Et ce n'est pas la démocratie participative ou directe qui réglera les problèmes. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il va falloir inventer des nouvelles institutions. Et je pense que l'un des problèmes, si vous voulez, pour inventer ces institutions, surtout que nous avons des nouvelles technologies qui permettent sans doute de faire des choses très différentes, c'est qu'on continue quand même d'interroger les gens sur des projets. Or, la première question qu'il faudrait faire, c'est de dire comment est-ce que vous vivez la ville? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Et d'interroger les gens qui sont dans un quartier de centre, de périscentre, de périphérie, dans une commune. Comment est-ce qu'ils vivent la ville? Et à partir de cette écoute-là, en tirer un certain nombre d'éléments pour les documents tels que les PLUI, donc plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLH, les plans locaux d'habitat, etc. Mais de faire ce premier travail-là, il me paraît très important, de comprendre la manière dont les gens vivent et les questions qu'ils se posent. Et après, donc, on construit donc, des documents qui doivent traduire cela, et puis il y a des compromis qu'il faut faire. Mais les compromis sont plus faciles quand on a écouté les gens et quand les gens s'aperçoivent qu'il y a des points de vue très contradictoires et qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on ait une base commune quand même, quoi. Alors que quand on parle tout de suite de programmation, tout de suite de transformation, tout de suite de construction, de hauteur, de tout ça, on n'aborde pas cette question de fond qui est d'abord comment je vis la ville.
Et vous pensez qu'on conserve suffisamment les citoyens de...
Oui, aujourd'hui, quand même, il y a des chartes. On vient de signer à Rennes une charte sur la manière donc de mobiliser les citoyens par rapport au projet, de discuter. Donc là, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais je dirais... C'est fondamental d'avoir ces demandes-là et aussi de faire comprendre aussi aux gens qu'il peut y avoir, on peut avoir des idées contradictoires, ce qui est normal. Ce n'est pas une critique, c'est comprendre. Et après, l'élu qui a des convictions doit pouvoir expliquer des choix. Et à un moment donné, c'est bien l'élu qui décide, quoi. Je veux dire que c'est ça une démocratie. Renvoyer au référendum toutes les questions, on n'avance pas. Moi, quand j'étais adjoint à l'urbanisme, les trois quarts des choses qu'on faisait avec Edmond Hervé, les gens n'étaient pas nécessairement d'accord. Faire des logements sociaux dans les quartiers, ce n'est pas la première demande qui est faite. Je n'ai jamais vu une seule réunion publique où on vous demande de nous faire des logements sociaux. Et pourtant, il faut les faire par rapport aux revenus des gens. Donc, si vous voulez, c'est un peu toutes ces modifications-là qu'il faut avoir. Et puis, on est dans un monde qui change tellement, vous l'avez dit, un monde incertain. Il y a le climat, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça pose aussi des questions de fond qui sont difficiles.
Vous parliez du climat. Je peux peut-être vous demander comment on peut repenser la ville, justement, face aux défis climatiques. Quel équilibre avoir entre, justement, le fait de préserver les terres cultivables et le fait de, malgré tout, continuer à loger
Je pense que la ville de Rennes et la métropole rennaise est un peu un exemple dans ce domaine-là, puisque 78% du territoire de la métropole est préservé pour la nature et l'agriculture. Et on l'a fait dans une conception de la ville qui n'oppose pas l'urbain et le rural, mais qui dit, et c'est le sens de la ville-archipel, c'est un ensemble, et que l'agriculture comme la nature, c'est pas un vide, c'est aussi un plein, parce que c'est utile. Bon. En faisant ça, automatiquement, on a moins de terrain à l'urbanisation. On a donc réduit, entre autres, les terrains qu'on vend pour construire des maisons. Mais en réduisant la partie, je dirais, espace jardin de la maison, on a augmenté l'espace public pour un certain nombre de maisons. Donc, c'est toute une évolution qui s'est faite, si vous voulez. Et puis, plus globalement, bon, il faudra un jour, mais ça ne peut pas se faire au niveau local, même pas au niveau national, mais au niveau au moins européen, c'est qu'il faudra que la Banque Centrale Européenne ne finance que des entreprises qui sont sur de l'énergie autre que fossile. Donc ça, c'est des évolutions, c'est des rapports de force qu'il va falloir créer. C'est-à-dire que l'évolution du climat, elle se fait à différents niveaux. Déjà à travers cette agriculture que l'on conserve et les circuits courts, mais il y a aussi des décisions qui doivent se prendre à un niveau national et international. Et c'est ça qui est difficile, c'est que c'est tous les niveaux qui doivent évoluer.
Et on parlait de climat incertain et aussi de monde incertain. Il y a notamment eu la crise sanitaire qui a un peu accentué la façon dont on occupait la ville en restreignant pas mal d'accès à différents services, en limitant les rencontres, etc. On sait que la ville, les activités proposées, les différents éléments, ça a un impact vraiment important sur notre santé mentale. Alors comment cette crise, elle a bouleversé notre vision de la ville et quels changements on peut envisager ?
Y a quand même une grande question qui est posée à travers cette pandémie, et il y en aura sans doute d'autres, sans vouloir être pessimiste, c'est que, en fait, notre économie, elle est fondée sur une croissance continue, posséder. Et on s'aperçoit que l'économie, elle doit se recentrer sur ce qu'on appelle l'humano, sur l'être humain, et donc sur la santé, l'éducation, la culture. Mais quand on a dit ça, ça veut dire qu'il faut redéfinir la notion de bien-être, qui est quelque chose de très qualitatif. Et ça, c'est très difficile, parce que chacune et chacun a une conception du bien-être. Donc, ça va demander un énorme dialogue, ce que j'appelle la démocratie de la connaissance, comme dit Gérard Bronner. Et c'est là qu'on rejoint le problème institutionnel, c'est qu'il va falloir organiser tout ça, et accepter donc dans cette organisation, d'abord de dire ce qu'on ressent sur la notion de bien-être, et ensuite d'accepter qu'il y a des divergences et qu'il faudra trouver des compromis, quoi. Et c'est ça, je pense, qui va être difficile, c'est qu'on est dans une société de la modernité qui permettait à chacun, de suivant ce qu'il est, de posséder, d'avoir des envies, tout ça, etc. C'est plus possible, ça. Il faut à la fois se contenir soi-même et collectivement. Et là, c'est un changement quand même qui est très important. Et puis, il faut faire aussi très attention. Quelquefois, des gens parlent de la frugalité. Moi, je me méfie. Quelqu'un qui gagne 800 ou 1000 euros par mois, je ne vais pas lui demander d'être dans la frugalité. La frugalité, ce sont ceux qui gagnent très bien leur vie. Or, la difficulté aujourd'hui, c'est les 30% de gens qui vivent dans le monde, qui vivent très bien, qui doivent faire des efforts. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce qu'on est prêt à le faire ? Ça, c'est une question.
Grande question, c'est sûr. Et pour revenir un petit peu sur Rennes, avec le Covid, Rennes a gagné en attractivité, puisque il y a pas mal de gens qui voulaient fuir un peu les grandes villes pour rejoindre des villes à taille plus réduite, même si Rennes, ça reste quand même une grande métropole. Comment gérer cette attractivité de Rennes ? Il y a eu beaucoup d'embouteillages, notamment Rennes a été citée récemment comme la ville la plus embouteillée devant Nantes, Paris et Marseille. Qu'en pensez-vous ? Comment on peut gérer ça ?
Alors, d'abord, le fait de dire qu'il faut quitter les grandes villes, Paris, les grandes villes, et venir dans des villes moyennes. Oui, on est dans une société de la mobilité. Donc, on n'est pas une société sédentaire comme on l'était au début du siècle précédent. Mais tous les métiers ne peuvent pas être en télétravail. Vous êtes chirurgien, faites pas du télétravail. Vous êtes femme de ménage, vous faites pas du télétravail. Il faut travailler, il faut être sur place. Vous êtes restaurateur, etc. Donc il faut se méfier aussi des métiers qui peuvent facilement on peut se loger et travailler dans des endroits différents. Donc il faut être prudent par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que je pense que ce qui est essentiel sur la mobilité, c'est pas uniquement un problème d'attaquer la voiture. C'est-à-dire qu'il faut une mobilité plurielle. Il y en a qui ont besoin de leur voiture. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas la prendre. Par exemple, si vous prenez le cas de Rennes, même pas la métropole, Rennes, jusqu'à 2 km, les enquêtes qui ont été faites démontrent que les gens vont à leur travail à pied ou en mode doux. Et quand on passe à 3 km, à part le métro, ils ne reprennent pas les transports en commun, donc les bus, mais ils prennent leur voiture. Là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut interroger les gens qui prennent leur voiture. Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autre solution ? Mais très concrètement, première chose. La deuxième chose, avec le milieu économique, il ne suffit pas de dire « je crée de l'emploi », etc. Comment je crée de l'emploi ? Où va s'installer l'entreprise ? Qui travaille dans cette entreprise ? C'est-à-dire qu'il y a tout un dialogue horizontal, c'est là où on retrouve la complexité, c'est-à-dire que tous les problèmes doivent être traités ensemble et pas uniquement se dire je m'occupe de la mobilité, Non, ce n'est pas suffisant. C'est quel mode de vie je veux. Si on veut conserver l'agriculture, les 78%, eh ben, automatiquement, bien sûr, il y a moins de densité et donc les trajets sont plus longs. Mais est-ce qu'on est prêt à construire sur des terres agricoles? J'espère que non. Donc, il y a des choix. Il n'y a jamais des choix totalement parfaits à 100%. On donne des objectifs. Et c'est là-dessus qu'il faut encore rediscuter avec les citoyens sur quels objectifs ils se donnent, quelles perspectives, quelles stratégies. Et puis, y a des contraintes, il y a du pour et puis il y a du contre. Voilà.
Et après 40 ans donc, d'expérience en tant qu'élu de la ville de Rennes, quel regard vous portez sur cette ville? Quelles évolutions et quels enjeux à venir?
Cette ville, elle a un gros avantage, c'est qu'elle n'est pas une trop grande métropole, mais elle a les services d'une grande métropole. Donc c'est quand même un avantage intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a préservé cette nature et cette agriculture, qui est quand même assez extraordinaire. La troisième chose, c'est qu'on a la chance d'être dans une région magnifique. Et je dis souvent, on peut le week-end aller à Cancale manger des huîtres, même si pour rentrer, c'est quelquefois un peu plus difficile, suivant l'heure. Mais on peut s'extraire de cette ville. Et puis, il y a quand même une politique du logement qui a été un peu exceptionnelle avec Fréville et Edmond Hervé et qui est continuée aujourd'hui. C'est les 30% de logements sociaux dans la ville de Rennes. 30%. C'est quand même la seule métropole qui a autant de pourcentage. Et puis, plein de produits de logement maîtrisés. Il y a 14 produits différenciés entre le logement social-social et le logement privé-privé. Et ça, dans tous les quartiers de la ville. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et je crois qu'il faut en être fier, même si tout n'est pas parfait.
Merci beaucoup Jean-Yves Chapuis pour cette interview. On vous retrouve donc jeudi à 18h aux Archives de Rennes pour une conférence, donc La ville n'est pas figée.
Merci à vous.
Au revoir.